France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'assassinat de Jean Jaurès. Il fait beau, il fait même chaud à Paris en ce 31 juillet 1914, lorsque le grand homme s'attable au restaurant du Croissant rue Montmartre, juste à côté du journal L'Humanité. Ils sont une dizaine autour de lui, députés socialistes, journalistes, amis proches. Les fenêtres sont ouvertes pour laisser entrer la brise du soir. Mais tous sont inquiets. La guerre frappe à la porte. Depuis l'assassinat de l'héritier du trône impérial d'Autriche-Hongrie à Sarajevo, un mois plus tôt, le jeu des alliances entre les États menace d'embraser toute l'Europe. Jaurès, lui, continue à penser qu'une issue pacifique est possible. Il veut y croire. Il a depuis toujours l'optimisme chevillé au corps. Il est 21h40, deux coups de feu claquent, Jaurès s'écroule, une femme crie, ils ont tué Jaurès. Plus personne désormais ne peut empêcher la boucherie qui s'annonce. Le 4 août, la France entre en guerre, c'est aussi ce jour-là qu'on enterre Jaurès et la paix. Notre invité aujourd'hui, Vincent Duclair, historien, il a consacré plusieurs livres à Jaurès, dont une biographie co-signée avec Gilles Candard. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Odile Conseil, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Stéphane Côm.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
Le combat continue, camarades. Ouais. Pour la liberté. Ouais. La République sociale.
De Jaurès, il reste aujourd'hui l'idée d'une voix qui porte, celle de la recherche obstinée de la paix. Jaurès, oui, c'est d'abord la force d'une voix. Un orateur hors pair. Il a tiré parti des cours de rhétorique reçus à l'école normale supérieure. Il est doué d'une mémoire prodigieuse, parlant sans notes, capable de tenir l'attention d'une foule de milliers de personnes. De cette voix, il n'existe hélas aucun enregistrement. Unanimement salué pour sa force, la clarté de son verbe et pour sa capacité à captiver et à convaincre un auditoire, ce tribun n'a jamais voulu être enregistré. Un vieil homme anonyme évoque ici la voix de Jaurès, justement, qu'il a entendu lui à plusieurs reprises. Il témoigne en 1964 dans un film de la RTF réalisé à l'occasion des 50 ans de l'assassinat de Jean Jaurès.
Quand il parlait, on était d'abord déçu, sa voix était monocorde, un peu rauque, un peu sourde. Mais dès que l'idée jaillissait, alors elle devenait cuivre, orchestre, tonnante, et ou bien modulée, charmante, qui voulait plaire, qui voulait convaincre. Son geste accompagnait sa voix, tantôt court, coupant, et tantôt les mains élargies semblaient vouloir recueillir les esprits qui venaient de conquérir.
Et au-delà de la voix, Jaurès est, selon le mot de l'historien Jean-Pierre Rioux, un intellectuel en état chronique d'insurrection optimiste, injuste, qui refusait de voir que le mal aussi est à l'œuvre dans l'histoire et jusque dans le socialisme. Jaurès, c'est un homme politique dont le combat pour la paix a fait qu'il a été trop rapidement assimilé à un pacifiste, autant dire un faible, voire un couard. Alors qu'il est avant tout un penseur de la paix et de la guerre, qu'il est internationaliste et patriote, qu'il ne refuse la guerre que lorsqu'elle est offensive et menée par des puissants à leur seul profit. Non, il n'est favorable qu'à la guerre défensive, la seule qui soit juste, selon lui. Jaurès est aussi un écrivain prolifique, articles, discours, traités, livres d'histoire. Les spécialistes estiment que son œuvre remplit 18 tomes de 400 pages chacun, soit 8000 pages. Citons notamment un ouvrage pour la défense de Dreyfus intitulé « Les preuves », en deux mots, publié en 1898, et un autre, titré « L'armée nouvelle », en 1911, dans lequel il cherche à penser l'armée en socialiste. Jaurès est enfin un grand homme à qui la République a ouvert les portes du Panthéon en 1924. Mais de son vivant, il ne fait pas l'unanimité. Pensez donc, un socialiste, un agitateur qui défend les mineurs de Carmaux en grève, qui participe à la création de la verrerie ouvrière d'Albi, dont les statuts précisent que les ouvriers doivent être les maîtres et diriger le travail à leur gré. Et surtout, il présente à l'Assemblée un projet de loi visant à abolir la peine de mort. Il veut également accorder le droit de vote aux femmes. Il s'oppose de toutes ses forces à l'allongement des services militaires que le nationalisme belliciste d'une partie de la classe politique réclame à grands cris dans les années 1910. Bref, Jaurès est un révolutionnaire, le socialisme est révolutionnaire. Dans le film « Qui a tué Jaurès », réalisé en 2014, Éric Lafond, directeur du musée de l'histoire vivante à Montreuil, donne un aperçu des sujets qui rendent Jaurès haïssable pour une partie de la classe politique et pour l'opinion.
Quand il parle de retraite des ouvrières, la droite conservatrice le déteste. Quand il parle de réduction du temps de travail, de défense de la loi des 8 heures de travail, il est détesté. Et quand il va défendre l'idée de paix contre l'idée de guerre, et qu'on peut discuter de la question d'Alsace-Lorraine avec les Allemands, donc sans passer par la guerre, à la Chambre, il est hué, insulté, et déjà on le traite d'antipatriote.
Jaurès naît le 3 septembre 1859 à Castres, dans une famille de petite bourgeoisie désargentée. C'est un élève brillant à l'écrit, comme à l'oral, ce qui le fait remarquer d'un inspecteur d'académie qui lui octroie une bourse. Il suit ses études à Paris, École normale supérieure et agrégation de philosophie. En 1881, il est nommé professeur à Albi, puis à la faculté de Toulouse, où il enseigne la philo pendant 4 ans. À l'approche des législatives de 1885, il se lance dans la bataille politique avec de puissants atouts, note l'historien Jean-Numat Ducange, qui vient de lui consacrer une biographie.
Outre son éloquence, deux grandes qualités développées au cours de ses études lui servent particulièrement. Une mémoire exceptionnelle. Il n'écrit presque jamais rien de ses discours, seulement quelques notes et extraits de citations pouvant appuyer ses propos. Et une facilité à écrire rend possible une réactivité sans égale. Qui plus est avec une plume élégante et imprégnée presque constamment de références historiques ou philosophiques ou même littéraires. Il sait déjà captiver son auditoire.
Et le voilà, 26 ans, élu député du Tarn sur une liste d'Union républicaine. Son républicanisme affirmé, qu'il situe alors au centre-gauche, devient au fil des ans socialisme. Oui, lorsqu'il découvre la réalité du capitalisme et la misère ouvrière lors d'une grande grève dans les mines de Carmaux, notamment en 1892. Dans le quotidien toulousain La Dépêche, il dénonce vigoureusement des conditions de travail indignes et la morgue patronale. Après deux éclipses, l'une de 1889 à 1893, l'autre entre 1898 et 1902, il restera député de Carmaux jusqu'à sa mort. Au moment de l'affaire Dreyfus, il prend fait et cause pour le capitaine injustement condamné, publie son livre intitulé « Les preuves », mais il se défend d'en faire un combat de classe. Dreyfus est un bourgeois, or lui pourfend la bourgeoisie. L'historienne Madeleine Robert-Rioux, grande spécialiste de Jaurès, éclaire cette question.
Homme soumis par l'exploitation économique ou discriminé par le racisme, c'est l'ordre social tout entier que les preuves mettent en question. Tel est au fond le sens de ce cri du cœur et de la raison que Jaurès adresse aux prolétaires. Dreyfus est dépouillé par l'excès même du malheur, de tout caractère de classe. Il n'est plus que l'humanité elle-même, au plus haut degré de misère et de désespoir qu'on puisse imaginer. L'humanité, tel est le sens de cet ouvrage.
L'humanité, c'est le nom du quotidien qu'il fonde en 1904. Ce n'est pas lui qui a eu l'idée du titre, c'est Lucien R., l'un de ses proches. Bibliothécaire à Romalsup, dont l'influence est notoire dans le cheminement de Jaurès vers la gauche et le socialisme. Le sous-titre, Journal socialiste quotidien. Mais il n'est pas le journal d'un parti. Non, il se veut ouvert à toutes les tendances, progressistes en tout cas, de centre-gauche, marxistes, syndicalistes, etc. En 1905, Jaurès est avec Jules Guesde, l'un de ceux qui fondent la SFIO, section française de l'Internationale ouvrière, qui réunit les différents courants du socialisme français. Patrice Gélinet en rencontre dans l'émission 2000 ans d'histoire en 2005. Philippe Torreton, ensuite, incarne Jaurès.
En créant la SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière, le 25 avril 1905 à Paris, Jean Jaurès réalisait la promesse qu'il avait faite 12 ans plus tôt aux mineurs de Carmaux, lorsqu'en 1893, il l'avait choisi pour être le candidat d'un mouvement socialiste alors profondément divisé.
Le mouvement socialiste aujourd'hui en France est divisé en sectes qui s'affrontent. Si vous m'en donnez mandat, je bâtirai avec vous l'unité de tous les socialistes dans un seul et même parti démocratique. Si vous me désignez comme votre candidat, je serai l'homme de cette unité, du rassemblement des exploités, de ceux qui n'ont rien, des laissés pour compte. Je serai l'homme de l'unité socialiste contre tous les partis bourgeois.
C'est aussi à cette époque que des voix nationalistes et belliqueuses se font entendre un peu partout en Europe et que le murmure menaçant de la guerre se fait plus insistant. Jaurès consacre alors l'essentiel de son travail à réfléchir à la guerre et à lutter pour la paix. En 1911, il écrit L'Armée Nouvelle, qui défend non pas un pacifisme bel an, comme ses adversaires le prétendent, mais une vision de l'armée républicaine et pacifiste, détaillée ici par l'historien Vincent Duclerc dans La Marche de l'Histoire de Jean Lebrun en mars 2014.
Il souligne très clairement que la France est capable de vaincre lorsqu'il y a des offensives de conquête. La France est capable de vaincre dans la défensive parce que les soldats auront la connaissance des raisons pour lesquelles ils se battent. C'est-à-dire que l'armée tout entière saura que tout aura été fait pour préserver la paix. Et lorsque l'on a cette conscience-là, on est capable effectivement de vaincre.
Avant cela, par deux fois, la France et l'Allemagne ont frôlé un conflit sur la question du Maroc, alors sultanat indépendant qui attise toutes les convoitises. En 1905, d'abord, la République et le Reich se disputent la souveraineté de ce pays, mais évitent la crise ouverte. Mais en 1911, elle rebondit lorsque Berlin envoie une canonnière de sa marine de guerre dans la baie d'Agadir pour protéger ses intérêts. Cette fois encore, une négociation désamorce ce qu'on appelle le coup d'Agadir. Le 11 octobre, en effet, un traité est signé, laissant les mains libres à la France pour faire du Maroc un protectorat. En contrepartie, l'Allemagne se voit offrir un grand morceau du Cameroun. Cet événement est néanmoins annonciateur de la confrontation franco-allemande et fait croître les idées nationalistes dans le débat public. À cette époque, Jaurès a changé sur ce qu'on commence tout juste à appeler le colonialisme. S'il est, lors de ses débuts en politique, un défenseur de ce qu'on appelle la mission civilisatrice de la France, il revoit ensuite sérieusement son opinion, en particulier à l'occasion de la rédaction d'une colossale histoire de la Révolution française qu'il a entamée en 1898. La révolte haïtienne, sous la houlette de Toussaint Louverture en 1791, lui ouvre les yeux, tout comme la répression de la révolte des boxeurs en Chine en 1900, à laquelle la France participe. Il réalise à cette occasion que la civilisation n'est pas forcément là où on pense. Et Jaurès finit par dénoncer ses politiques coloniales. Exemple, avec cet extrait d'un discours de 1912, au moment de la ratification du traité qui instaure le protectorat français sur le Maroc. Et c'est le comédien Bernard Fresson qui prête ici sa voix à Jaurès.
Il y a des hommes qui, voyant venir ce qui pour nous est la France, mais pour eux est l'étranger, voyant des hommes en armes et des obus pleuvoir et des canons de fusil briller, se disent « Nous avons vécu jusqu'ici libres, indépendants et farouches et se défendent, vous les déshonorez du nom de fanatiques. » Ce sont tous ces peuples qui, jusqu'ici inertes ou qui le paraissaient, qui semblaient pour nous couchés dans un sommeil éternel, qui aujourd'hui se réveillent, réclament leurs droits, affirment leurs forces. Race de l'Afrique, race de l'Asie, le Japon, la Chine, l'Inde. Et c'est dans notre Afrique du Nord un réveil aussi, un frémissement qu'il serait bien imprudent de dédaigner ou de négliger.
Fort de l'exemple marocain, plusieurs États s'autorisent à mettre la main sur l'autre. L'Italie s'empare de la Libye, l'Autriche-Hongrie profite de l'affaiblissement de l'Empire ottoman pour absorber la Bosnie-Herzégovine, créant dans les Balkans des tensions qui dégénéreront rapidement. Et ici encore, Jaurès se révèle visionnaire dans cet éditorial du 23 octobre 1912, publié dans le quotidien toulousain La Dépêche.
Les hommes d'État, mégalomanes et aveugles, qui ont décidé du destin de la France, ont donné le signal d'une agitation européenne dont le reflux terrible s'avance maintenant vers nous. De la semence empoisonnée du Maroc est sorti un arbre immense et funeste dont l'ombre meurtrière a pesé sur la Tripolitaine, s'allonge sur les Balkans et couvrira peut-être demain toute l'Europe. Ce sera cet arbre maudit dont parle Dante, dont chaque rameau, quand on le brise, laisse échapper des gouttes de sang.
De fait, les guerres des Balkans, oui, il y en a deux, ont semé des graines mortifères. Les petits états de cette région s'allient en 1912 pour combattre la tutelle ottomane. Ils l'emportent, mais se font un an plus tard la guerre entre eux. Résultat, plus de 100 000 morts, des centaines de milliers de blessés. Un avant-goût dramatique de ce qui attend le continent tout entier.
Tu n'en reviendras pas, toi, qui courais les filles, jeune homme dont j'ai vu battre le cœur à nu, quand j'ai déchiré ta chemise, et toi non plus, tu n'en reviendras pas, vieux joueur de manille. Que nos buts a coupé par le travers en deux, pour une fois qu'il avait un jeu du tonnerre, et toi, le tatoué, l'ancien légionnaire, tu survivras longtemps sans visage, sans yeux. On part, Dieu sait pour où, ça tient du mauvais rêve. On glissera le long de la ligne de feu. Quelque part, ça commence à n'être plus du jeu. Les bons hommes là-bas attendent la relève. Roule au loin, roule le train des dernières lueurs. Les soldats assoupis que ta danse secoue laissent pencher leur front et fléchissent le cou. Cela sent le tabac, la laine et la sueur. Comment vous regardez sans voir vos destinées, fiancés de la terre et promis des douleurs, la veilleuse vous fait de la couleur des pleurs, vous bougez vaguement vos jambes condamnées. Déjà la pierre pense où votre nom s'inscrit, déjà vous n'êtes plus qu'un mot d'or sur nos places, déjà le souvenir de vos amours s'efface, déjà vous n'êtes plus que pour avoir péri.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'assassinat de Jean Jaurès.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
En mars 1913, Louis Barthou, président du Conseil, reprend une initiative d'Aristide Briand, son prédécesseur. Appuyé par le président Poincaré, il soumet au Parlement un projet de loi visant à porter le service militaire de 2 à 3 ans. Il s'agit de préparer l'armée française à une éventuelle guerre contre l'Allemagne, que certains pensent inévitable. Après les deux crises marocaines. Et la droite nationaliste, elle, veut prendre sa revanche depuis la défaite de 1870 et la perte de l'Alsace-Lorraine. L'armée allemande étant beaucoup plus fournie en hommes, il s'agit donc de renforcer les troupes hexagonales. Une bonne partie de la gauche s'oppose à cette loi, Jaurès en tête, qui voit là une façon de manifester nos volontés belliqueuses aux voisins européens et donc d'accélérer la marche vers un conflit d'ampleur. Cette guerre qu'il craint, dont il entend le grondement menaçant s'approcher inexorablement. Alors, il fait tout ce qu'il peut pour lui barrer la route. Il se barre comme un lion, multiplie les articles, les meetings, qui selon l'Humanité, réunissent 150 000 personnes auprès Saint-Gervais le 25 mai 1913. Et il parle en plein air, alors on imagine l'énergie, la puissance nécessaire pour se faire entendre d'une telle foule. Les photos de Jaurès survolant la foule, justement, sont devenues iconiques. C'est l'époque où le tribun de la SFIO est l'homme le plus haï de France, le plus critiqué, le plus caricaturé, avec casque à pointe sur la tête, surnommé Herr Jaurès, ami des Allemands, donc ennemi de la France. la presse d'extrême droite se déchaîne. Lui, dont la parole est d'or et de feu, est tenu à la mesure de son talent. Affublé de qualificatifs peu amènes, gargouille oratoire, saliveur, Napoléon du boniment, grande gueule sur un tas de tripes, entre autres gentillesses. Même Charles Péguy, qui jeune écrivain ne ménageait pas ses louanges sur Jaurès du temps de l'affaire Dreyfus, le voue à présent aux gémonies. Celui qui était hier nourri de tout le vin de la générosité humaine, ignorant totalement la haine, le vivant exemple d'un socialisme humanisé, est devenu le traître Jaurès, un agent du parti allemand, un misérable, un volumineux poussa. Cette détestation générale, la voici illustrée par le directeur de l'Humanité, ici joué par un acteur dans le docu-fiction qui a tué Jaurès. Mais les propos tenus dans la presse contre Jaurès sont, eux, bien réels.
Ça fait 20 ans que la droite française veut la peau de Jaurès. Et dans le Paris Midi daté du 17 juillet, il est recommandé d'administrer à Jaurès le plomb censé lui manquer dans la tête. La veille, dans le matin, un certain Urbain Goyer souhaitait que si nous avions un chef en France et que ce chef soit un homme, il devrait coller Jaurès au mur. Et Maurras, qui avec la régularité du métronome affirme un jour que Jaurès est un traître. Le lendemain, une fille immonde entretenue par les Allemands. Et le troisième jour, le porte-parole de Guillaume II. Ah, sans oublier les caricaturistes qui nous inondent de dessins plus vénéneux les uns que les autres.
Si vous vous dites que cette voix ressemble à celle de Philippe Pirard, notre comédien, c'est lui, effectivement. Prêt à laisser le pays aux Allemands, Jaurès, non. Pacifiste, oui. Munichois avant la lettre, certainement pas. Mais il n'est pas revanchard, non. Il pense qu'on peut évoquer la question de l'Alsace-Lorraine avec les Allemands sans se faire la guerre, par la voie diplomatique, donc. Le soft power, dirait-on aujourd'hui. Et il compte sur l'internationalisme ouvrier pour empêcher l'éclatement d'un conflit. Dans la même nouvelle, il propose un plan de réorganisation de l'armée très détaillé, empruntant aux milices nationales de la Révolution et aux gardes nationaux de la Commune, donc une armée de défense. Oui, une armée du peuple pour le peuple, selon ses propres mots. Il s'agit d'imaginer une organisation défensive si puissante qu'elle agirait comme un instrument de dissuasion en Europe et donc de paix dans le monde, précise l'historien Vincent Duclerc. Mais Jaurès est lucide, il est informé, il suit les progrès des armements et des techniques de guerre. Il sait pertinemment que les moyens dont disposent les armées feront des morts par centaines de milliers, comme ce fut le cas lors des deux guerres des Balkans. Il pressent qu'une guerre générale, on ne dit pas alors conflit mondial, serait le plus terrible holocauste depuis la guerre de 30 ans. Je reprends ces mots là encore. Pour mémoire, cette guerre a déchiré l'Europe de 1618 à 1648. Les morts, civils ou militaires, des mercenaires pour la plupart, se comptent en millions, de 3 à 4, soit un habitant sur 5 au bas mot. Telle est la situation lorsque l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône d'Autriche-Hongrie, est assassiné par un nationaliste serbe à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine, le 28 juin 1914. Cet homme, Gavrilo Princip, a-t-il été armé par les autorités serbes? Peut-être, ou pas. Mais peu importe, Vienne ne peut laisser ce crime sans réponse. Voici narré dans une émission de la RTF, en 1959, comment les événements s'enchaînent inexorablement.
2 juillet.
L'empereur François-Joseph écrit à l'empereur d'Allemagne. Il recherche son accord pour une guerre contre la Serbie, dont l'attentat de Sarajevo fournit le prétexte.
5 juillet.
L'Allemagne prend des mesures en prévision d'une guerre austro-serbe et austro-russe.
19 juillet.
Le Conseil des ministres d'Empire, réuni à Vienne, décrète l'envoi d'un ultimatum à la Serbie.
23 juillet.
L'ultimatum autrichien est remis au gouvernement de Belgrade.
Le délai de réponse expire le 25 juillet à 18h.
Le gouvernement serbe s'incline devant l'ultimatum.
28 juillet.
L'Autriche-Hongrie n'en déclare pas moins la guerre à la Serbie.
31 juillet.
Ultimatum de l'Allemagne à la Russie et à la France.
En vérité, l'attentat de Sarajevo ne fait pas les gros titres en France. Mais plus les jours passent, plus il apparaît que les alliances, Autriche-Hongrie-Allemagne d'un côté, Russie-France et Royaume-Uni de l'autre, risquent de déboucher sur une fatale confrontation. La Russie, liée par un traité d'alliance avec la Serbie, souhaite en outre contrer l'influence austro-hongroise dans les Balkans et promouvoir l'union des peuples slaves. Vienne doit certes venger l'assassinat de François Ferdinand, mais protéger également ses intérêts dans les Balkans et affirmer son autorité sur les États slaves du Sud. Quant à l'Allemagne, qui n'a pas digéré la crise du Maroc, elle saute sur l'occasion pour attaquer la France. Bref, les trois empires, austro-hongrois, allemands et russes, ont chacun des ambitions, donc autant de raisons d'entrer en conflit. Jaurès, lui, a bien conscience de ce que la guerre provoque chez les peuples, des ravages qu'elle cause dans les populations, mais qui n'ont rien à voir avec les visées des puissants. Au cours des derniers jours de juillet, il ne ménage pas sa peine, tient des meetings, suscite une réunion internationale des socialistes à Bruxelles, misant sur l'entente avec les Allemands pour s'opposer ensemble à la guerre, en déclenchant, s'il le faut, une grève générale. Alors il jette toutes ses forces dans la bataille, écrit, prend la parole inlassablement. Il prononce son avant-dernier discours le 25 juillet dans la banlieue de Lyon. En raison même de l'énormité du désastre dont nous sommes menacés, les gouvernements, à la dernière minute, se ressaisiront et nous n'aurons pas à frémir d'horreur à la pensée du cataclysme qu'entraînerait aujourd'hui pour les hommes une guerre européenne, déclare-t-il. Voici un autre extrait de ce discours.
Il n'y a plus, à ce moment où nous sommes menacés de meurtre et de sauvagerie, qu'une chance pour le maintien de la paix et le salut de la civilisation, c'est que le prolétariat rassemble toutes ses forces, qui comptent un grand nombre de frères, français, anglais, allemands, italiens, russes, et que nous demandions à ces milliers d'hommes de s'unir pour que le battement unanime de leur cœur écarte l'horrible cauchemar.
Le 29 juillet, il est donc à Bruxelles pour une réunion du Bureau socialiste international parce qu'il veut croire que les sociodémocrates allemands ne se jetteront pas dans la guerre. Mais, comme souvent, il pêche par excès d'optimisme. Le 31, il va à la Chambre, puis essaye de rencontrer le président du Conseil. Trop tard, les dés sont jetés. L'Allemagne se déclare en état de guerre imminente et la Russie mobilise. Le soir, Jaurès va dîner au Croissant, juste à côté du siège de l'Humanité. Ils sont une dizaine autour de lui, dont Pierre Renaudel, le directeur du Quotidien, plusieurs députés socialistes, ainsi que le journaliste et syndicaliste Amédée Dunois. Jaurès est assis, le dos à la rue. Les fenêtres sont ouvertes. Tout en dînant, le député prend des notes. Il va écrire, lui aussi, son « J'accuse », qu'il a tellement admiré à l'époque. Alors comme Zola l'a fait le 13 janvier 1898 à la une de l'Aurore, il va signer à la une de l'UBA du 1er août 1914 un article qui fera date et qui mettra chacun face à ses responsabilités. Oui, il nommera tous ceux qui devront un jour rendre compte devant l'histoire et les citoyens. C'est alors que le dénommé Raoul Villain passe sa main par la fenêtre ouverte et tire. Jaurès s'affaisse sur son voisin, Pierre Renaudel, directeur de l'Humanité. Voici comment ce dernier décrit la scène avec des accents dramatiques. Nous sommes alors bien plus tard, en 1930.
Au milieu du tumulte dont le café s'emplit, je regarde Jaurès dont la tête est là, inerte sur mes genoux. Jaurès a été surpris en plein sourire, la trace en est encore sur les lèvres. Mais le teint se plombe, devient gris, les yeux sont fermés. Fébrilement, mes doigts cherchent la blessure sous les cheveux drus et rudes. Je sens une humidité chaude et la hernie molle de la matière cérébrale. La mort est là. Abominable et inoubliable cauchemar.
Jaurès est mort, la paix est morte avec lui. Maintenant, qui est ce Raoul Villain, son assassin interpellé sur le champ et arrêté? Eh bien, c'est un jeune homme de 29 ans, proche des nationalistes de l'Action française. Un insignifiant, un instable, un dérisoire qui entre lui les appels de la presse nationaliste, selon l'historien Jean-Pierre Rioux. Alors, sa main a-t-elle été guidée par ceux qui voulaient abattre Jaurès? Les historiens s'accordent à dire qu'il agit seul, mais influencé, jusqu'à être légitimé par les journaux qui conspuaient le traître Jaurès et lançaient des appels au meurtre. Je l'ai tué parce qu'il s'opposait à la loi des 3 ans, 100 ans de service militaire, explique cet esprit faible qui se rêvait héros, mais dont l'aspiration à servir la France a été brisée. Instable, solitaire, mauvais soldat, il a été reformé en 1906, après 3 mois seulement de service militaire. L'historien Gilles Candard en parle ainsi dans le docu-fiction « Qui a tué Jaurès ?» de Philippe Touranchot, réalisé en 2014.
On est toujours partagé entre l'idée de savoir est-ce que c'est un pauvre type qui a assassiné Jaurès sous le coup d'une impulsion et qui ne sait pas très bien ce qui lui arrive, qui n'a pas réfléchi aux conséquences, ou est-ce qu'il joue admirablement le pauvre type pour ne pas avoir à répondre davantage. Il apparaît quand même comme étant un pauvre type rusé, si je puis dire. À la fois fragile psychiquement et mentalement, mais capable de duplicité et capable de dire ce qu'il faut dire pour justement apparaître comme non responsable de ses actes.
Vilain qui aurait certainement aimé mourir pour la France passe toute la guerre en prison. Mourra-t-il sur l'échafaud ? Son procès s'ouvre le 24 mars 1919. L'avocat général demande une condamnation, mais sans préciser de peine. Les avocats de Vilain, eux, s'attardent sur la fragilité psychologique de leur client, insistent sur sa longue détention provisoire, présentent son geste comme celui d'un exalté troublé par un contexte de tension exacerbée. Aux questions qui lui sont posées, Vilain est-il coupable d'homicide volontaire et a-t-il agi avec préméditation ? Le juré répond par la négative. L'assassin de Jaurès est acquitté. Comment est-ce possible ? Dans sa plaidoirie, l'un des avocats de l'inculpé, Alexandre Zevaes, avait donné la réponse par avance. Extrait.
Le crime de Vilain, c'est un crime de l'avant-guerre. Un crime de l'époque troublée, de l'époque du déchaînement, de la propagande antimilitariste. Mais depuis, messieurs, depuis, il y a eu le surgissement prodigieux de toutes les énergies nationales contre l'envahisseur. L'union sacrée et féconde de tous les cœurs, de tous les esprits, de toutes les volontés. D'un mot, il y a eu la victoire.
Ces verdicts soulèvent une vague d'indignation. L'émotion, la tristesse et la colère qui n'ont pu s'exprimer en 1914 dans le feu de l'union sacrée et des premiers jours de guerre s'affichent. Une immense manifestation réunit 100 000 personnes à Paris, largement plus que pour les obsèques de Jaurès. Madame Jaurès, elle, est condamnée aux dépens. Elle doit s'acquitter d'une partie des frais du procès. Cette femme accablée a perdu non seulement son mari, mais aussi son fils unique, Louis, tué au combat dans les derniers mois de la guerre. Ce jeune homme, 17 ans, 1914, n'a pas l'âge d'être mobilisé, mais il s'engage. Quand on a l'honneur d'être le fils de Jean Jaurès, on doit donner l'exemple, dit-il. Jaurès lui avait fait part de son souhait de reposer dans un de nos petits cimetières ensoleillés, fleuris de la campagne, comme il disait. Mais en 1924, le cartel des gauches, qui vient de remporter les élections, dépose à la Chambre un projet de loi visant à transférer les cendres du tribun socialiste au Panthéon. Le vote des députés est largement positif, mais donne lieu à des affrontements. L'opposition nationaliste proteste vigoureusement, tout comme les communistes, qui voient une récupération bourgeoise inacceptable. Pour Paul Vaillant-Couturier, rédacteur en chef de l'Humanité, il s'agit du deuxième assassinat de Jaurès, carrément. Il l'écrit dans son éditorial du 23 novembre 1924.
Panthéoniser Jaurès sous le régime de la plus crasseuse bourgeoisie, officiant sous les ordres des banquiers américains. Remettre aux radicaux, ennemis déclarés de Jaurès vivant, le soin de glorifier Jaurès assassiné. Ne voir en Jaurès, ce bouillonnement d'idées, ce renouvellement torrentueux, que l'homme d'une démocratie réformiste figée, c'est bien, comme disent ceux du cartel, faire un geste réformiste symbolique. Ils n'honorent pas Jaurès. Ils le salissent, ils l'affadissent, ils le maquillent. Ils s'acharnent à rapetisser l'honnête homme à leur taille de politicien misérable.
Jaurès repose au Panthéon, mais il reste vivant à travers ses écrits, à travers des photos surtout, celles en particulier du tribun à la chambre, ou haranguant la foule avec une passion jamais démentie. Mais laissons le mot de la fin à l'historien Jean-Pierre Rioux, récemment disparu, auteur d'une biographie de Jaurès. Il est resté l'apôtre barbu de la cause du peuple, le héros du mouvement ouvrier, le ténor d'un socialisme à la française, le philosophe et l'historien profond et singulier, le tonnerre des élitos de l'UMA, le tribun de meeting et de tribune. Il eut un leadership des bras ouverts et du verbe prophétique, de la morale et de la justice en marche, conquise en avançant son socialisme à lui. Il fut d'abord une voix qui voulait dire vrai. Qui dit mieux ? Oui, ils ont tué Jaurès et on en parle avec notre invité Vincent Duclerc. Bonjour.
Bonjour.
Historien, vous enseignez à l'école des hautes études en sciences sociales. Vous avez particulièrement travaillé sur l'affaire Dreyfus, avec récemment la publication des œuvres complètes du capitaine Dreyfus aux belles lettres. Vous avez aussi beaucoup travaillé sur Jaurès, auquel vous avez notamment consacré une biographie avec l'historien Gilles Candard. Je précise que vous êtes également un spécialiste du génocide des Arméniens et l'auteur du rapport sur le rôle de la France dans les génocides des Tutsis au Rwanda. C'est bien ça. Alors, évidemment, trois noms illustrent le continuum socialiste en France. Jaurès, Blum, Mitterrand. Mais au-delà de ça, et de façon générale, que restait-il de Jaurès aujourd'hui ? Principalement, parce qu'on pourrait en refaire un livre.
Déjà, votre émission et votre récit le montrent bien. C'est effectivement le... On a d'abord une histoire, ça c'est important. On peut écrire aujourd'hui l'histoire de Jaurès, on pourra y revenir peut-être, mais elle est passionnante et elle permet à la fois de voir une époque et de voir des combats. Et les combats de Jaurès sont quand même essentiels, et c'est comme ça qu'on apprécie effectivement aussi la force de l'homme, je veux dire son courage et sa clairvoyance. Jaurès est aussi un patrimoine. Déjà, l'homme lui-même, on a eu des évocations, son accent chantant du sud-ouest, la manière dont il se déploie, il voyage énormément, il adore le chemin de fer, Catherine Moulin l'a bien montré, il voyage en Amérique latine, mais aussi en Europe, pour les réunions internationales socialistes. Il est très attaché aux petites patries, à sa patrie du Tarn. Récemment, le maire de Villefranche, près d'Albi, a restauré la maison de Bessoulet, où il passait beaucoup de temps avec sa famille. Le patrimoine, c'est important pour Jaurès, parce que Jaurès fait accéder aussi, Jaurès par exemple a tenu dans la Dépêche énormément de chroniques de livres, Jaurès est très cultivé, il aime partager, il aime aussi les territoires, il aime les personnes, Jaurès est un ethnologue aussi, donc en fait il y a aussi cette dimension avec Jaurès, on accède à un monde à la fois perdu, à un monde aussi vers l'avenir. Et puis je dirais la dernière chose, pour essayer de comprendre ce qui reste de Jaurès aujourd'hui, c'est que Jaurès, quand même, ce sont des valeurs extrêmement importantes et qui sont incarnées dans les combats que je mentionnais. Mais Jaurès, par exemple, il a défini ce qu'est la démocratie républicaine, c'est-à-dire bien montrer que la République n'est pas nécessairement une démocratie et qu'il faut justement, pour qu'elle soit une démocratie, que tout le monde soit représenté, que le prolétariat, je veux dire, ne soit pas écrasé. Jaurès, c'est aussi la justice pour tous. C'est aussi le courage de la vérité. Dans l'affaire Dreyfus, on le voit bien. Le Jaurès, c'est le choix de l'avenir et du progrès. Donc on a quand même, avec Jaurès, voilà, un paysage d'histoire, un paysage de philosophie immense, et en même temps très précis. Et c'est tout le travail qui est mené, effectivement, notamment dans le cadre des œuvres complètes de Jaurès. C'est-à-dire, effectivement, de bien montrer qu'on accède à Jaurès par des textes. Ce n'est pas une sorte de météore, en fait, vous voyez, qui se promène on ne sait où.
Est-ce qu'on ne pourrait pas y ajouter une autre qualité particulière, parce que tout le monde ne la partage pas dans le personnel politique, et depuis longtemps, c'est la probité.
La probité, absolument. D'abord, Jaurès était quelqu'un qui vivait simplement. Il avait toujours un peu des problèmes d'argent. Il mettait aussi pas mal d'argent personnel dans l'humanité. C'est pour ça, du reste, qu'il va aller en Amérique latine pour essayer de récolter des fonds. Jaurès est très généreux de sa personne. En fait, ce qui l'anime, c'est le combat politique, mais le combat politique au sens premier, c'est-à-dire effectivement d'amener toute la société à construire, en fait, la démocratie républicaine. Il est aussi très fidèle. Par exemple, lorsqu'il a une très belle relation avec la marquise Arconati Visconti, et puis parce qu'il prend des positions justement qui ne sont pas des positions pacifistes, on y reviendra peut-être, mais des positions justement de définition de la guerre, la marquise l'éjecte de son salon et il en est très peiné. Et par ailleurs, une autre preuve aussi de la probité, c'est qu'en 1998, parce qu'il s'est engagé pour Dreyfus, il est battu à la Chambre des députés. Mais dans la mesure où le scrutin lui permettait effectivement de revenir à la Chambre sur des listes parisiennes, eh bien il va refuser effectivement d'abandonner ses électeurs de Carmo.
Pas de parachutage, quoi.
Voilà, c'est ça.
Précisément, puisque vous tendez la perche, vous avez bien raison, sur l'approche de la guerre de Jean Jaurès, effectivement, on l'a un petit peu dit dans le récit, il est pour une armée ou une guerre défensive. Ce qui interpelle aussi, c'est sa conception de l'armée citoyenne qui emprunterait aux milices révolutionnaires, à la garde nationale. Ouais. Là aussi, il y a un continuum. Hein,
oui, il y a un continuum. Et vraiment, je crois qu'il y a un énorme malentendu sur Jaurès. Et donc, nous, les historiens, on essaye, justement, par les textes, de simplement dire que non, Jaurès n'est pas pacifiste. Je veux dire, lorsqu'on dit effectivement que, voilà, il faut se mobiliser avec Jaurès pour refuser le soutien à l'Ukraine, c'est faux. Jaurès, effectivement, considérait que face aux guerres d'agression, il fallait se défendre et il fallait mener la guerre. Il fallait mener la guerre, c'était une guerre juste, hein, et il a raison de ce point de vue-là. En fait, il faut mener la guerre de manière intelligente. C'est-à-dire que Jaurès a bien vu dans l'affaire Dreyfus que l'armée, lorsqu'elle se referme, en fait, lorsqu'elle est une sorte de milieu fermé, ne comprend pas aussi les stratégies. Mmh. C'est pour ça que Jaurès est très attaché à la fois aux citoyens qu'il faut former. Alors, attention, c'est pas des milices comme celles qui ont massacré les Tutsis au Rwanda. Ce sont des milices, je veux dire, professionnelles. Ce sont effectivement des citoyens qui savent aussi pourquoi ils luttent. Et puis...
C'est Valmy, quoi.
Voilà, c'est ça. Et aussi, ça très important, et c'est pour ça que le général de Gaulle va saluer Jaurès, et je veux dire, ce qu'il voyait effectivement de la vision de Jaurès, ce sont des officiers intellectuels. C'était Dreyfus aussi. C'est-à-dire que ces officiers sont là pour penser la stratégie, et donc et penser les guerres futures. Et c'est pour ça que, dans votre émission, vous avez dans le récit, vous avez bien rappelé que Jaurès était contre la loi des 3 ans. Mais la loi des 3 ans, c'était une absurdité finalement stratégique, c'est-à-dire que l'idée c'était que on va gagner si on met effectivement plus d'hommes donc au front que l'ennemi. Mais non, je veux dire, au fond, la Première Guerre mondiale, toutes les guerres le montrent, il faut effectivement innover en matière stratégique, en matière d'armement, et c'est comme ça qu'on va gagner.
Et bien sûr, et quand vous parliez d'armée à dimension citoyenne, moi ça me fait penser par exemple aux taxis de la Marne.
Oui, les taxis de la Marne, tout à fait, et puis...
C'est l'illustration, hein.
Oui.
De ça.
Non, parce que là c'est vraiment une découverte. C'est-à-dire, oui, l'idée, voilà, on va mobiliser l'ensemble de la société. Et c'est aussi, et c'est pour ça que le général de Gaulle a très bien réussi à Londres lorsqu'il monte, en fait, l'armée de la France libre, où vous avez effectivement Romain Gary ou Jean Jaurès, Pierre Mendès France, qui sont aviateurs dans le groupe Lorraine. Et c'est ça, effectivement, et c'est comme ça qu'on gagne les guerres.
C'est comme ces plaisanciers britanniques qui viennent en nombre pour l'évacuation des Anglais à Dunkerque.
Tout à
même
fait.
Chose. Vincent Duclerc, la création de la SFIO, officiellement Parti Socialiste SFIO, Section Française de l'International Ouvrière, c'est l'ancêtre du PS, hein, tout simplement, en 1905. Autrement dit, l'union sous une seule étiquette de plusieurs partis ou mouvements différents est due, certes, à Jaurès, mais aussi à Jules Gued. Pour autant, ces deux hommes ne se ressemblent pas sur tous les points.
C'est certain que là, on a quand même une matrice, finalement... Voilà, de deux lignes du socialisme français et même européen, hein, c'est-à-dire notamment le fait de savoir si les socialistes peuvent participer, peuvent aller vers des gouvernements bourgeois. Ça veut dire aussi qu'est-ce qu'il y a finalement des buts communs à l'humanité ? Ou est-ce que finalement le but du prolétariat, hein, de la lutte des classes est définitif et que, je veux dire, elle ne veut pas intégrer en fait le reste des sociétés. On le voit assez bien, leur position, c'est quand effectivement l'affaire Dreyfus amène une crise nationaliste, des menaces très très fortes, hein, quand même, sur la démocratie républicaine, hein, comme l'appelle Jaurès, et Jaurès décide de soutenir le gouvernement de centre-droit de Waldeck-Rousseau, qui est un ancien proche de Gambetta. Donc il décide, et effectivement, il se mobilise, il dit, voilà, les socialistes vont sauver la République, ce qui est très largement vrai. Et en fait, les partisans de Jules Gued, hein, et au-delà, effectivement, en Allemagne, notamment Rosa Luxembourg, Lichnex, ou d'autres, effectivement, considèrent que c'est une trahison. Donc voilà, effectivement, un petit peu...
C'est les sociotraîtres, déjà ?
Voilà.
De la part des spartakistes, notamment ?
Oui, hein, absolument.
Bon, alors, vous parlez aussi de l'historisation tardive de Jaurès.
Oui, historisation. Oui, en fait, simplement le fait, oui, c'est un mot un peu savant, mais simplement le fait que le passage de Jaurès à l'histoire, la mise en histoire de Jaurès a été tardive, parce que Jaurès, effectivement, d'abord représentait un capital symbolique énorme qu'il fallait mobiliser pour ou contre la guerre, par exemple. Hein. La panthéonisation 1924, ça c'est un enjeu fondamental. C'est effectivement, voilà, pour les radicaux d'apparaître comme à gauche, mais avec aussi une vision de Jaurès qui est quand même très édulcorée. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que il faut attendre, finalement, c'est intéressant, la guerre d'Algérie, hein, pour que effectivement des historiens se posent la question de, au fond, que doivent faire les socialistes face à la guerre d'Algérie, face effectivement à Guy Mollet qui suit la guerre en Algérie et s'immobilise. Et là, vous avez autour d'abord d'un vieil historien qui s'appelle Ernest Labrousse, et bien des jeunes chercheuses, hein, Michel Perrault, Madeleine Robériou qu'on a entendu, Roland Trempé, Et là, y a des travaux extrêmement intéressants et des travaux collectifs. C'est très intéressant de voir que c'est d'abord effectivement des grands colloques, Jaurès et la Nation, Jaurès et la classe ouvrière, Jaurès et les intellectuels, et puis le lancement des œuvres complètes de Jaurès. Jaurès est très présent et en même temps, Jaurès effectivement est enseigné. Jaurès, je veux dire, c'est une valeur, notamment, on en a parlé, éducative, hein, parce que sa vision de l'éducation est très intéressante, hein, de ce point de vue-là. L'idée qu'un élève, c'est, il le dit, l'intelligence est là. C'est-à-dire, au fond, la raison est le sensible.
Et par rapport au débat sur la laïcité et la loi de 1905,
Jaurès, c'était comme, au fond, ce qu'on souhaite pour la laïcité, c'est-à-dire l'idée que la laïcité, c'est la liberté de conscience. Et il faut défendre la liberté de conscience, ce qui permet à la fois de croire ou de ne pas croire, de changer de religion aussi. Et c'est ça, effectivement, la laïcité. C'est un élément essentiel, je veux dire, du pacte de liberté donc, qui fonde notre société.
On a du mal à imaginer aujourd'hui la violence de la presse, enfin d'une certaine presse, à l'encontre de Jaurès, une cible, une véritable cible.
Alors, parce qu'on l'a dit, Jaurès était donc présenté, de par sa lutte contre la loi des trois ans, comme...
Ah oui, tout vient là, d'accord. Le pacifiste, Bélan, oui, un homme dangereux pour la France par rapport au conflit qui arrive.
Alors c'est vrai qu'effectivement, la presse, cette presse d'opinion est extrêmement virulente, hein, qui est quand même, là on le voit, mobilisée par l'extrême droite. L'extrême droite devient très puissante. Hein, et donc c'est finalement des journaux d'extrême droite qui vont donner le ton à la grande presse. C'est-à-dire, ce qui est malheureux, et pourtant Jaurès explique cela donc dans ses éditoriaux notamment de l'Humanité, c'est que son action n'est pas, livrer la France à l'Allemagne. C'est au contraire d'organiser intelligemment la défense nationale.
Alors, on le sait moins, on va finir avec ça, Jaurès a aussi pris la défense des Arméniens dès 1896, et on sait ce qu'il est devenu des Arméniens avec les Turcs, hein, en 1915. Il parle d'un peuple sans État, objet d'une guerre d'extermination, il avait raison, dans l'Empire Ottoman, dès la fin du XIXe siècle. Il accuse violemment la France et les autres puissances européennes de ne pas lever le petit bois pour défendre ce peuple, contrairement à ce que prévoit d'ailleurs le traité de Berlin de 1878. Alors, on va préciser que ce discours en faveur des Arméniens, prononcé le 3 novembre 1896, Proust y a assisté. Il était suffisamment impressionné pour faire de Jaurès l'un de ses personnages du livre Jean Santeuil, sous les traits du député Couson. Voilà. C'est donc, il y avait vraiment, vous dites que l'œuvre de Jaurès est multidimensionnelle, preuve en est. Ouais.
Et en même temps, là, on touche du doigt son courage. C'est-à-dire qu'il est tout seul avec un député catholique modéré qui s'appelle Denis Cochin. Ils sont tous les deux seuls parce que, effectivement, le sultan Abdulhamid II a payé tous les journaux et un certain nombre de députés aussi pour ne pas parler des grands massacres qui se déroulent donc, dans l'Empire ottoman entre 1894 et 96 et qui sont des massacres horribles. Jaurès le dit bien, vous l'avez dit, guerre d'extermination. C'est la définition d'un génocide. Et Jaurès, courageusement, va expliquer que, voilà, l'humanité impose effectivement de défendre ses persécutés. Et je crois que ce qui nous reste de Jaurès, vraiment, c'est la lutte contre la persécution.
Ouais. Et finalement, il est précurseur dans l'idée de crime contre l'humanité, au bout du compte. Merci infiniment, Vincent Duclerc.
Merci à vous, Vincent.
Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, de l'assassinat de Jaurès, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Loïc Frapsos.